l'épée de l'esprit et c'est pas pour rien. Alors merci Seigneur pour la technique, on a le vidéoprojecteur avec nous. Mais par contre, c'est bien de pouvoir l'avoir et exercer nos mains à pouvoir l'utiliser. C'est tellement important. Je sais, il y en a aussi qui sont avec leur portable, technique oblige. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur juste un verbe. Un verbe transitif. Et ce verbe, c'est le verbe entretenir. Car je crois que ce verbe a toute sa raison d'être dans notre vie spirituelle, dans notre marche chrétienne. En effet, j'aimerais que ce matin, nous comprenions que dans notre vie chrétienne, il y a bien sûr certaines choses que nous devons absolument entretenir sous peine de les voir dépérir, sous peine de les voir péricliter eh bien, dans notre vie spirituelle. Ainsi, de la même manière qu'on s'entretient, on entretient notre cœur, notre corps, jusqu'à nouvel ordre, on s'alimente jour après jour, on s'hydrate, bien sûr, avec de l'eau, et en plus canicule oblige, et puis on se nourrit avec des aliments solides, et ça c'est vital pour notre corps, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien de la même manière, nous devons entretenir notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, de peur qu'elle dépérisse, eh bien, sur le plan spirituel. En effet, la première des choses à entretenir, et si vous avez avec vous des stylos, je vous encourage à pouvoir prendre des notes. Surtout, moi, je me plais à vous bénir avec des versets. Vous savez, on peut parler, on peut dire beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est laisser cette parole pleinement nous convaincre de l'intérieur et travailler notre cœur encore en ce matin. Donc, la première chose à entretenir dans notre vie chrétienne, c'est, il me semble, notre salut. Alors, j'aurais aimé entendre un amen, mais c'est une réalité. Et pour nous chrétiens, on a toutes les raisons du monde pour nous réjouir de notre salut. Frères et sœurs, Dieu a placé, a déposé dans notre cœur quelque chose d'inestimable, un trésor. Rémi, tu as quelque chose d'extraordinaire dans le cœur. Et c'est Dieu lui-même qui l'a déposé le jour où tu as dit oui. Le jour où tu t'es engagé avec le Seigneur en passant par les eaux du baptême. Un trésor inestimable. Mais voyez-vous, même dans le milieu chrétien, on oublie que trop souvent que si nous sommes sauvés au jour d'aujourd'hui, c'est encore en espérance. Amen ou pas amen? C'est l'apôtre Paul qui le dit. D'ailleurs, c'est un premier verset que vous pourrez relire tranquillement chez vous. Il est très court, c'est juste la première partie de ce verset. Romains chapitre 8, verset 24. La première partie, l'apôtre Paul qui dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés ». Alors nous le sommes. Nous sommes actuellement sauvés, nous sommes potentiellement sauvés. Mais ce salut sera pleinement révélé, sera manifesté lorsque Jésus-Christ reviendra sur les nuées et lorsque nous décollerons à sa rencontre. Et là, la Bible nous dit, le livre de Corinthiens nous dit qu'on sera transformé en un instant, en un clin d'œil, en l'image du Seigneur Jésus. Et là, le salut sera révélé, le salut sera manifeste. Mais en attendant bien sûr cet heureux jour, nous devons entretenir le salut que Dieu nous a donné. Et c'est quoi l'entretenir, si ce n'est de le garder et de le protéger comme un joyau précieux. Car au risque peut-être de surprendre quelques-uns parmi nous ce matin, notre salut, on peut le perdre. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est surtout que vous n'êtes pas d'accord avec la parole de Dieu, parce que c'est la Bible qui nous le dit. On peut perdre notre salut, frères et sœurs. D'où l'importance pour nous de pouvoir l'entretenir, de pouvoir le choyer. Permettez-moi de vous dire que si nous ne veillons pas sur notre salut, si nous ne faisons aucun effort pour le garder, eh bien nous prenons le risque de le perdre. Et le diable, par excellence, est celui qui va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour essayer de dérober. D'ailleurs, on l'a appelé le voleur. Et ce n'est pas pour rien. Il vient, il vole et il cherche bien sûr à détruire. Et ce n'est pas aussi pour rien que Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3 et le verset 11, je vous laisse peut-être le temps de le chercher pour ceux qui désirent le chercher, Apocalypse chapitre 3, verset 11, Jésus qui parle. Ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus lui-même qui parle et il dit « Je viens bientôt ». Alors mon fils, ma fille, retiens ce que tu as, afin que personne, tu m'entends, afin que personne ne vienne prendre ta couronne. Et s'il nous dit de retenir, c'est parce que justement, on peut eh bien, voir toutes ces belles choses, eh bien, ces choses extraordinaires, incommensurables, eh bien, s'échapper de nos mains. Vous savez, il y a ce passage dans Jean, chapitre 10, j'y pensais tout à l'heure, à ce passage où Jésus a dit « Nul ne vous ravira de ma main ». Mais vous savez, tant qu'on reste dans le creux de la main, rien ne peut nous arriver, même pas eh bien, le corona ou compagnie. Mais si on décide de se retirer de la main de Dieu, Là, c'est autre chose. Parce qu'au final, devant Dieu, on restera toujours, toujours libre. Ainsi, nous avons besoin d'entretenir notre salut afin qu'il ne se perde pas. Et vous savez comme moi comment on peut si facilement le perdre. Il suffit juste d'un péché. Un péché qui n'a pas été traité, un péché qu'on peut entretenir dans notre cœur. Un péché, bien sûr, caché des autres, mais bien visible. De par les yeux perçants de notre Seigneur Jésus-Christ, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est celui de Judas. Il est tellement flagrant. Un homme qui a côtoyé le Seigneur Jésus, qui a marché avec lui, qui a vécu des miracles en présence de Jésus, mais qui n'avait pas réglé un problème qui était au plus profond de son cœur. Il était chrétien. Il prenait la Sainte Cène comme nous. Il vivait des miracles. Pourtant, il y avait ce péché de cupidité qui lui a donné à un moment donné de pouvoir trahir le meilleur des maîtres, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. C'est terrible ça. Et vous savez de quelle manière il a trahi le Seigneur Jésus en troquant avec les chefs religieux 30 pièces d'argent. Pour la petite histoire, 30 pièces d'argent, ça équivalait à pouvoir acheter un esclave, le moindre des esclaves sur le marché. Ah bien des esclaves, le plus bas prix pour acheter un esclave, c'était 30 pièces d'argent. Mais quand la cupidité vous tient, l'amour de l'argent vous tient, vous êtes capable de faire pour quelques pièces d'argent, ah bien n'importe quoi. Oui, un péché peut nous donner à perdre le salut. Nous pouvons perdre notre salut également, ah bien tout simplement par négligence, par désinvolture. On joue avec notre salut comme quelque chose de vulgaire. Or, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 2, et le verset 3, je vous laisse le temps de le chercher, et je vous laisse vraiment le temps de le chercher. Hébreux chapitre 2 et le verset 3, un avertissement. L'auteur du livre dit, j'entends encore des bruits de feuilles, je voudrais que vous l'ayez devant vos yeux, je vous laisse le temps de le chercher. Hébreux chapitre 2 et le verset 3, la Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Frères et sœurs, moi le premier, nous ne pouvons pas pleinement réaliser la grandeur, la richesse, la portée de notre salut, qui nous épargne la perdition éternelle et qui nous convie à demeurer éternellement, d'éternité en éternité, dans le paradis que Dieu a préparé pour nous. Frères et sœurs, c'est des choses qui nous dépassent, qui nous transcendent même. Quand on viendra bien dans ce ciel de gloire, les anges même nous feront courbette devant nous. On n'est pas rien, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes ceux et celles que Dieu a choisis. Et vous comprenez comme moi que tous, bien qu'ils soient, que tous soient appelés, tous ne sont pas choisis, tous ne sont pas élus, malheureusement. La Bible est claire, notre salut, nous pouvons aussi le perdre par un manque de foi, un manque de persévérance. Et là encore, l'auteur du livre d'Hébreux nous déclare la chose suivante, Hébreux chapitre 10, et le verset 35 à 39, on peut lire ces quelques versets, vous pouvez tourner quelques pages, toujours on reste dans le livre, l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 35, il nous est dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Verset 36, car vous avez besoin de quoi ? Alors aidez-moi. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez, ah, t'as été un petit peu trop vite mon frère, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Frères et sœurs, ne doutons pas, le Seigneur il reviendra. Et il l'a dit, il reviendra au moment où effectivement on ne s'y attendra pas. Ça va surprendre tout le monde. Mais il reviendra, il ne peut pas mentir. Toutes ses promesses ont été accomplies et croyez-moi, celle-ci va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Et il nous est dit au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et verset 39, enfin, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais au contraire de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » C'est pourquoi Paul, quelque part, nous exhorte et nous invite à pouvoir travailler à notre salut. Est-ce que vous avez déjà lu ce passage ? Travailler à notre salut. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler à notre salut ? On peut le lire, hein, Philippiens chapitre 2, verset 12. On peut le lire si c'est projeté, ne le cherchez pas. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et puis quoi ? Et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler à notre salut ? Faut-il le compléter d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'il faut le parfaire ? Ce que Jésus a fait sur la croix n'était peut-être pas suffisant. Il faut que j'ajoute quelques actes de piété ou autre, etc. Non, 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 non. Le salut du Seigneur Jésus, il a été parfait. Il est complet. D'ailleurs, quand Jésus a bien terminé son œuvre sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et c'est alors qu'il rendit lui-même l'esprit. On ne lui a pas dérobé la vie. Il a donné sa vie. Il a dit « Tout est accompli ». Donc, il n'y a rien à rajouter. Mais comprenons ce passage, travailler à notre salut, non, eh bien, cela nous invite plutôt à entretenir justement notre salut en le gardant précieusement dans notre cœur, mais aussi en faisant tous nos efforts. Eh bien, pour vivre une vie conforme aux exigences qu'impose ce si grand salut. Il nous est dit, par exemple, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11, vous avez vu, je ne me suis pas moqué de vous, je vous ai donné et je vous donne plusieurs versets afin que vous puissiez les reméditer chez vous et que cela puisse fortifier vos cœurs. 2 Pierre, chapitre 1, et du verset 10 au verset 11, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est ça aussi, travailler à notre salut. Faire en sorte que nous soyons rendus dignes à bien de ce salut si merveilleux que Dieu nous a accordé les uns et les autres. Oui, je crois, dans ce premier point, il était important de rappeler que nous avons besoin d'entretenir ce merveilleux salut que Dieu a déposé dans notre cœur. Vous savez, dans ce monde de ténèbres, nous distinguons par ce salut éclatant, un bien qui brille au plus profond de notre cœur. Mais il y a aussi un deuxième point que je voudrais placer devant nos cœurs et qui ne peut que nous encourager à bien rechercher, à entretenir notre vie spirituelle. C'est justement au sujet de la piété. Là aussi, entretenir une vie de piété. Vous savez, lorsqu'on demande aux chrétiens, même des personnes qui ont pas mal d'années de conversion avec le Seigneur, quand on leur demande ce qu'est la piété, certains viennent avec un point d'interrogation. On ne sait pas trop. C'est quoi la piété ? C'est quoi être un homme pieux ou une femme pieuse ? Faut-il rappeler que la piété est à la fois l'amour respectueux que nous manifestons à l'égard de Dieu ? Faut-il rappeler que la piété, c'est cette dévotion que nous avons pour Dieu, mais aussi pour les choses de Dieu ? Et pour faire simple, eh bien, notre piété, c'est ni plus ni moins notre amour, notre attachement à Dieu. C'est ça la piété. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons entretenir dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. On a besoin de plus en plus de nous attacher au Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est pour que nous puissions de mieux en mieux nous attacher au Seigneur. Alors je veux être le plus concret possible, bien sûr, avec vous ce matin. Quelques exemples d'actes de piété. Louer, c'est un acte de piété. Adorer Dieu, c'est un acte de piété. Ce n'est pas une option de... Je chante pas, et puis de toute façon, il y a le masque, je chante pas. Toutes les fois où nous louons, nous adorons Dieu de manière plénière, ou même personnellement dans notre chambre, nous manifestons un acte de piété. Vous êtes d'accord avec moi, hein ? Si vous n'êtes pas d'accord, levez la main, dites « je ne suis pas d'accord ». On s'expliquera par la suite. Louer, adorer, remercier, même remercier Dieu. On parle des grâces que l'on fait eh bien, en introduction au repas. Oh, on le prend dans l'habitude. Mais ça, c'est un acte de piété. On pense que c'est bon, c'est minime, on le fait, on le fait pas. Non. Remercier Dieu, cela touche aussi son cœur. Et c'est un acte de piété. Vous l'avez compris, la prière est aussi un acte de piété. La méditation, mais aussi la mise en pratique de la parole de Dieu est un acte de piété. Toutes les fois où je m'applique au cœur même de mes vacances à lire, à méditer la parole de Dieu, je fais un acte de piété. Quand je pratique l'amour autour de moi, quand je prends soin des frères, des sœurs, je fais des actes, je pratique des actes de piété. Quand je pratique la bienveillance, la bonté à l'égard des membres de ma propre famille. Parce que si on parle de piété, bien sûr, eh bien, c'est par rapport à Dieu, mais c'est aussi de manière horizontale par rapport à ce qui nous entoure. Il faut pratiquer la piété dans nos propres familles. Et je m'adresse aux pères de famille. On a besoin de manifester la piété à l'égard de nos épouses, à l'égard de nos enfants. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on appelle cela aussi également piété filiale. Manifester la piété à l'égard de nos proches, de ceux de notre propre famille. Alors frères et sœurs, qu'en est-il de notre piété? Est-elle manifeste dans nos vies? Est-ce que nous l'entretenons? Est-ce que nous la pratiquons? Je me rends compte que l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, utilise ce mot piété. Dans ses deux courriers adressés à ce jeune serviteur de Dieu du nom de Timothée, déjà à 10 reprises, il parle de piété. Et puis, à 2 reprises, dans l'épître à Tite, il parle également de la piété. Donc déjà, dans 3 courriers, 12 fois, il parle de la piété. Et j'en tire un pour vous ce matin. Un parmi ces 12, 1 Timothée chapitre 4, verset 8, qu'est-ce qu'il nous est dit? 1 Timothée chapitre 4 et le verset 8, exerce-toi à la piété. Oh, j'aurais dit, entraîne-toi à la piété, ça aurait été pareil. Hein. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à quoi? À peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente, et de celle qui est à venir. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Alors, c'est bien de faire du sport. D'ailleurs, moi, j'ai besoin un petit peu de faire. Suite au confinement, j'ai pris quelques embonpoints. On a besoin de faire du sport. Mais ce que l'apôtre Paul explique là, c'est qu'il y a plus important que l'exercice corporel, c'est de pouvoir pratiquer, de pouvoir nous entraîner à la piété. C'est-à-dire nous entraîner à nous attacher davantage à Dieu, nous entraîner à pouvoir l'aimer davantage. Il nous a aimé le premier. Et nous devons répondre à cet amour tel un écho. Et jour après jour, j'ai envie de dire, dépendant du Saint-Esprit, pour que nous puissions de mieux en mieux, de plus en plus, aimer notre Dieu. Exerce-toi à la piété. Et l'apôtre Paul explique que la piété nous assure une vie présente épanouie et une vie future bien plus glorieuse encore. Ainsi, nous avons besoin de nous exercer à la piété, de nous entraîner, de pratiquer la piété dans notre vie de chaque jour. Et ceci afin que nous puissions réjouir le cœur de Dieu. Toutes les fois où nous pratiquons la piété, nous réjouissons le cœur de Dieu. Est-ce que vous le savez ça? Il est content de nous voir là. On aurait pu choisir. Hein. Et puis, est-ce qu'on entend au journal télévisé, on aurait pu choisir de rester confiné chez nous, etc. Vous avez choisi de venir ici, dans sa maison. Tout ça, le Seigneur, il le voit, frères et sœurs, il le voit. Et il nous est dit, par exemple, dans Osée chapitre 6, verset 6, Dieu qui ouvre son cœur. Et parlant de la piété, il va dire, il va exprimer à qui veut bien l'entendre ce qu'il aime. Parce que souvent, on exprime à Dieu ce que nous aimons. « Oh Seigneur, j'aimerais bien que tu fasses ça, ceci, cela pour moi. » Mais il est bon aussi de découvrir au travers de la parole de Dieu ce que Dieu aime. Et il nous dit, « Car j'aime la piété et non les sacrifices. » J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Mais je retiens avec vous, j'aime la piété. Dieu aime, mon frère, ma sœur, quand tu pratiques la piété. Et je sais, parce que tu es là, et parce que tu aimes le Seigneur, que jour après jour, tu t'exerces à cette piété. Et Dieu nous encourage à pouvoir exceller et faire des progrès dans ce domaine. Il est important de pouvoir considérer, comprendre ce que la piété. Je vous donne encore quelques exemples d'attitude d'une personne pieuse. Vous savez, une personne pieuse, ce n'est pas quelqu'un qui a les mains jointes, les yeux révulsés, donc vers le ciel. Ce n'est pas ça. Une personne pieuse, ce n'est pas une personne parfaite. Une personne pieuse, c'est une personne tout à fait normale. Sauf qu'un jour, cette personne, elle a rencontré Dieu et Dieu a transformé sa vie. C'est un pécheur sauvé par grâce. Et qui est assez humble pour reconnaître ses défaillances, ses faiblesses, mais aussi quelqu'un qui est assez humble et honnête pour reconnaître ses torts. Et on a l'exemple, par exemple, du roi David. Pour moi, c'était un homme pieux, un homme selon le cœur de Dieu. Et regardez ce qu'il est dit le concernant quand, à un moment donné, sa faute a été découverte et qu'il a reconnu spontanément sa faute. Regardez ce qu'il dit et qu'il écrit dans le psaume 32. C'est comme une exhortation, un conseil qu'il nous donne à nous qui sommes là présents. Psaume 32, versets 5 et 6. Psaume 32, versets 5 et 6. David dit « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à qui ?» À l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Et le verset 6 qui est intéressant, c'est David qui le donne comme conseil. « Qu'ainsi tout homme pieux ou toute femme pieuse te prie au temps convenable. Et alors, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Un homme pieux, une femme pieuse, c'est quelqu'un qui, dans sa marche chrétienne, parce qu'il est conscient qu'il est imparfait, toutes les fois où le Saint-Esprit le reprend, eh bien, spontanément, sans chercher aucune excuse, eh bien, est capable de reconnaître son péché, tout comme l'a fait David. Sommes-nous, frères et sœurs, des hommes et des femmes pieux et pieuses? Un autre exemple, autre attitude qui caractérise une personne pieuse. Une personne pieuse, c'est une personne qui accepte la persécution. Persécution qui est provoquée tout simplement parce qu'il a foi en Dieu, parce que eh bien, cet homme ou cette femme a choisi de pouvoir suivre son Seigneur. Et la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 et le verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi ? Seront persécutés. » Personne ne peut échapper à cette règle spirituelle. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. Mon frère, ma sœur, que veut dire ce passage? Si ce n'est que si nous choisissons d'être des hommes et des femmes pieux et pieuses, eh bien, il nous faudra immanquablement accepter de pouvoir vivre, pas chercher, mais quand ça se présente, accepter la persécution à cause de notre foi. Et elle peut venir de différentes manières. Quelquefois, certains se moquent de nous alors qu'on leur partage notre foi en Dieu. D'autres nous dénigrent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou est-ce que c'est qu'à moi seulement? Je me rappelle, une fois, j'ai donné un prospectus à quelqu'un, l'invitant à venir écouter l'évangile. Je n'étais même pas encore pasteur à l'époque. Personne n'a pris. Alors, il y avait plein d'autres personnes autour. Elle a pris le prospectus, elle a crié tout fort. Mais je n'ose pas vous dire le reste, parce que c'était plutôt des mots vulgaires. Une fois, c'était une Bible qu'on m'a jetée comme ça. Mais mon cœur a été blessé sur le coup. Hein. Ce n'est pas évident hein, de vivre ça. Et continuer à esquisser eh bien, un visage serein, parce qu'on est là pour bénir. Ou ce jour où eh bien, quelqu'un m'a craché dessus. Et que dire de ce jour également, on était deux cette fois-ci, où un gars a sorti un couteau. Ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est des choses eh bien, que j'ai pu vivre, que Dieu m'a permis de vivre. Mais quelle fierté de ressortir de ces moments, dire « Seigneur, toi qui as été persécuté, moi aussi, eh bien, j'ai été persécuté pour ton nom et mon âme te bénit et te loue. » Frères et sœurs, de toute façon, toute chose concourt à notre bien. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les adversités et les souffrances que nous pouvons peut-être endurer les uns les autres à cause de notre foi, à cause de notre amour pour Dieu, eh bien, tout cela produiront pour nous un poids de gloire dans le ciel. Un texte que j'aime, que j'affectionne particulièrement, c'est Romains chapitre 8, verset 18. Romains 8, verset 18. En plus, ça rime bien. Romains 8, 18. « J'estime, dit l'apôtre Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et pendant que je suis bien en train de citer ce passage, je pense à tous mes frères et mes sœurs qui sont persécutés. Frères et sœurs, ce qu'on vit là, avec l'histoire du virus, ça n'a rien à voir avec ce que vivent nos frères et nos sœurs. Qui quelquefois, pour avoir lu des témoignages, on leur arrache les ongles pour leur demander eh bien, de renier leur foi en Jésus. Mais ils refusent. Et ils restent fermes dans leur foi. Je pense à toutes ces personnes eh bien, qui, eh bien, donc à l'époque, ont été jetées aux lions, aux fauves, à cause de leur foi. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée là-haut. Croyez-moi, j'aime à le dire, excusez-moi l'expression, le Seigneur il a aussi son petit calepin et il note toutes les fois où on a été des hommes et des femmes pieuses, eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas caché qui nous étions. On n'a pas vécu une vie chrétienne en sous-marin. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont en sous-marin. Dès qu'ils sortent du lieu de culte, paf, mode masqué, mode caméléon, mais il n'y a pas ça ici. Hein. Et puis, on fait comme si de rien, et puis on se fond à la masse. On a besoin de marquer notre différence et exprimer notre joie d'appartenir au Seigneur. Parce que plus que jamais, ce monde qui est en détresse, ce monde qui est dans la crainte à cause du virus et autres, eh bien, c'est à nous de leur montrer qu'il y a encore espoir en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alors, mon frère, ma sœur, qu'en est-il de notre piété? Est-elle manifeste? Est-elle visible dans nos vies? Ou devons-nous entendre de Dieu ce qu'il a dit un jour à son peuple par la bouche de son saint prophète Osée? Lisez avec moi Osée, chapitre 6, verset 4. On sent la peine du cœur de Dieu et il s'exprime par l'un de ses prophètes et il s'adresse à son peuple, le peuple de Jérusalem. Il dit, que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Et nous ne voulons pas ce matin avoir une piété qui soit semblable à la nuée du matin. Vous savez, la nuée du matin, elle vient, elle apparaît, et puis dès que le soleil arrive et tout ça, là, la journée commence à se lever, il n'y a plus rien. C'est pareil pour la rosée qui va bientôt se dissiper avec la chaleur donc, du soleil. Que notre piété puisse être durable. C'est pourquoi on a besoin de l'entretenir, on a besoin de développer notre piété, on a besoin de cultiver une vie de piété devant Dieu notre Père Céleste. Amen. Je voudrais terminer avec peut-être un troisième et dernier point. Je ne veux pas être long ce matin. Il y a une autre qui veut prêcher à ma place. Voilà. On a vu qu'il est important qu'on puisse entretenir notre salut. On a vu ensemble qu'il est important que nous puissions avoir une vie de piété. C'est important, frères et sœurs. On a besoin d'être de véritables enfants de Dieu, des véritables chrétiens, qu'ils soient inébranlables. Et pour cela, il nous faut pratiquer, avoir une vie de piété les uns les autres. Mais je voudrais terminer, et je crois qu'il est aussi important et primordial de rappeler qu'il est aussi important d'entretenir le feu du Saint-Esprit dans nos vies. J'étais content, la première personne qui a élevé la voix tout à l'heure, au début du culte, a parlé, Seigneur, qu'on soit enflammé pour toi. Je vais taire le nom de la personne. Seigneur, que nous soyons bouillants, que nous soyons pleins de feu. On a besoin aussi d'entretenir le feu du Saint-Esprit. Et pour nous qui sommes repentis, convertis à Dieu, pour nous qui sommes passés par les eaux du baptême, le Seigneur Jésus avait aussi prévu de pouvoir allumer un feu. Et littéralement, la sœur a dit ça tout à l'heure. Vous savez maintenant que c'est une sœur. Oui, d'allumer un feu. Seigneur, que ta flamme puisse être au-dedans de nous. Et c'est une réalité. Jésus est venu allumer un feu. Frères et sœurs, je voudrais vous le prouver. Luc chapitre 12, verset 49 et les versets 50. Jésus qui parle. On sait, Jésus est venu pour sauver les perdus, tout va bien, etc. À plusieurs reprises, il a dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Mais on découvre aussi l'une des raisons de sa venue ici-bas sous cette terre. Il dit, je suis venu jeter un feu. D'autres versions disent, répandre, verser un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Et au verset 50, il nous est dit, il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Deux choses. Au verset 49, Jésus fait la mention de ce feu, qu'il avait promis à ses disciples, en envoyant cette effusion du Saint-Esprit, le baptême, d'être bouillant, enflammé par l'Esprit de Dieu. Un feu qui nous permet d'être bouillant, oui, plein de ferveur pour témoigner de Jésus. Un feu qui nous permet d'être rempli de joie. Frères et sœurs, on ne crée pas la joie. La joie divine, la joie surnaturelle, elle vient lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Et quelles que soient les circonstances, on est heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux parce que je ne suis pas seul. Je suis heureux parce qu'au cœur même du coronavirus et de l'épidémie et tout ce que vous voulez, Jésus, il est avec moi et je suis plus que vainqueur. Ce feu nous donne à être comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres. Ce feu que Jésus est venu allumer dans nos cœurs, il nous permet de pouvoir, en connivence avec le Saint-Esprit et le sang de Jésus, purifier tout ce qui mérite encore d'être purifié. Le feu que Dieu a allumé, que le Seigneur a allumé dans notre cœur, est purificateur. Ce feu, il consume en nous toute forme de péché. Et puis ce feu, il nous maintient dans un ardent amour pour Jésus. Dans la mesure où je suis rempli du Saint-Esprit, dans la mesure où ce feu est là, présent dans mon cœur, je suis plein d'amour pour mon Dieu. On ne me dit pas de lire la Bible, je cours vers la parole de Dieu. On ne me dit pas de prier, c'est un besoin, c'est une nécessité, parce qu'on est, attaché au Seigneur. Excusez-moi l'expression, on est amoureux du Seigneur. Mais voyez-vous, Et la raison d'être du verset 50, qu'on a lu, Luc 12, verset 50, « Avant que ce feu ne soit répandu, il a fallu que Jésus paye le prix fort. » Et il parle, il dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé. » Il n'a pas parlé que ce baptême-là, précisément, serait notre partage, quoique. Mais il dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé. » Et là, c'est une autre donne. Ce baptême, c'est un baptême de souffrance. Il parlait de ce qu'il allait endurer, de ce qu'il allait souffrir pour nous. Ce chemin particulier qui allait le conduire jusque sur ce mont Golgotha, où il allait donner, livrer sa vie, eh bien, pour le pardon de nos péchés. Il parlait, eh bien, de ce baptême-là, baptême de souffrance. Un baptême qui l'a conduit à donner sa vie, à livrer sa vie. Vous savez qu'il est mort entre deux brigands, mais le troisième jour, il est ressuscité, gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, quand il est remonté vers son Père, c'est lui qui a envoyé l'effusion du Saint-Esprit. Il a envoyé un autre consolateur pour que nous ne soyons pas seuls, frères et sœurs. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans le Saint-Esprit, je vais choquer personne, j'en suis convaincu. Sans le Saint-Esprit, personne n'est prêt pour le retour du Seigneur. Sans ce feu intérieurement au-dedans de nous, eh bien, nous n'irons pas loin. D'ailleurs, la Bible dit, c'est clair, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, c'est dans le livre de Zacharie. C'est pourquoi il est important que nous puissions aspirer à être continuellement remplis du Saint-Esprit de Dieu. Vous connaissez ce passage, Éphésiens chapitre 5, on en a bientôt terminé. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. On n'a pas besoin de pouvoir se vautrer dans les choses de ce monde. Que les gens boivent, c'est une chose. Mais nous, on ne va pas se saouler. On n'a pas besoin d'être ivre des choses de ce monde, frères et sœurs. On a besoin d'être ivre, excusez-moi l'expression, de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il fait ce jeu de mots. Soyez pas enivrés de vin, mais au contraire, on l'a lu, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et il nous montre quelques exemples. Comment être rempli du Saint-Esprit? Comment faire que notre feu soit toujours présent au dedans de nous? Entretenez-vous. On retrouve notre verbe transitif, maintenant verbe pronominal, puisque entretenez-vous, c'est à nous de le faire, c'est notre responsabilité. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mine de rien, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, c'est ça qui va me permettre à tirer sur moi le feu du Saint-Esprit, le rallumer s'il a besoin d'être ravivé, frères et sœurs. Parce que quelquefois, il faut l'avouer, il nous est tous arrivé de voir ce feu s'étioler, devenir comme ce petit lumignon. Mais il restait quand même lumignon. Et le Seigneur est là à pouvoir raviver la flamme. Amen. Est-ce que c'est qu'à moi seulement c'est arrivé? Je ne vais pas te demander lever la main, mais je pense que toutes les mains se seraient levées. Nous sommes tous pareils, frères et sœurs. Et on a besoin par la louange, par une vie spirituelle conséquente, que nous puissions plus que jamais louer, adorer notre Seigneur et nous laisser remplir tout à nouveau du Saint-Esprit. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu, au lieu de rouspéter. Il fait trop chaud. Et ce masque. Rendons grâce à Dieu. Parce que pendant qu'il y a toute cette histoire de pandémie là, croyez-moi, le Seigneur, il est à l'œuvre. Et ceux et celles qui doivent hériter du salut, Dieu continue à les sauver jour après jour. Il est au contrôle. Le Seigneur n'est pas surpris de ce qui se passe. C'est lui qui l'a permis. Et on en parlait avec un frère au début du culte. Je me rappelle avec ceux qui étaient là, Marilyn, on en avait parlé dernièrement. On n'est pas nombreux, une petite poignée ici. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit a parlé. Par la bouche d'un ou ça aurait pu être l'un ou l'autre, mais Dieu a choisi quelqu'un et il nous a dit ce que nous sommes en train de vivre là. Et il dit, le monde entier sera ébranlé. Mais vous, enfants de Dieu, vous, mes enfants, ne craignez rien. Vous serez sous ma protection. Vous serez gardés. Je fais court, je résume. Et c'est suffisant pour traverser sereinement, frères et sœurs, ce que nous sommes en train de vivre. Ne craignons pas ce que nous vivons. Au contraire, que cela puisse nous donner à lever nos yeux vers le ciel et nous rappeler que Jésus est à la porte. Mais pour cela, on a besoin d'entretenir une vie spirituelle. On a besoin d'entretenir notre marche chrétienne. Et on a besoin de pouvoir entretenir notre salut, une vie de piété, mais aussi le feu du Saint-Esprit. Que dire en conclusion, frères et sœurs? Retenons bien sûr que nous avons tous besoin les uns et les autres. d'entretenir notre vie spirituelle. Sur quoi ? Sans quoi, eh bien, elle finira par s'éteindre et mourir peu à peu. D'ailleurs, Salomon l'a dit dans l'un de ses proverbes, « Faute de bois, le feu, il s'éteint. » Si j'alimente pas, si même j'attends sur les autres, frères et sœurs, c'est une question de temps, tôt ou tard, ça va s'éteindre. Hein. Mais si, personnellement, j'alimente, si j'entretiens, parce qu'il est question de s'entretenir personnellement, eh bien, entretenir notre voie, notre vie chrétienne, excusez-moi, eh bien là, eh bien, nous serons fin prêts pour le retour du Seigneur. C'est pourquoi on a besoin de veiller. Veiller sur notre merveilleux salut que Dieu nous a donné en Jésus, afin que nous ne soyons pas laissés pour compte quand Jésus-Christ reviendra. Et puis, dans notre marche chrétienne, on a besoin d'entretenir une vie de piété qui est embrasée par le feu du Saint-Esprit, afin que Dieu soit en tout point, en tout temps, glorifié à travers nos vies, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, que Dieu nous aide à pouvoir les vivre, parce que les temps deviennent difficiles. Je n'ai aucune visibilité par rapport à la rentrée. Et vous êtes comme moi. Mais nos yeux choisissent de regarder vers le Seigneur. Et plus, eh bien, dans le secret de notre chambre, on va chercher à entretenir notre voie, notre foi, notre vie chrétienne, eh bien, plus nous serons sereins, quel que soit ce qui va se passer, eh bien, à l'avenir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Et tu nous invites ce matin à pouvoir nous entretenir dans, Seigneur, Père, les choses, Seigneur, que tu as placé dans nos vies, dans nos cœurs, et à commencer par ce salut si grand, si merveilleux. Seigneur, nous ne voudrions pas être désinvoltes, négligents. Tu l'as dit toi-même, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Seigneur, pardonne-nous pour nos légèretés, nos péchés, nos manquements. Fais-nous grâce encore en ce matin. Donne-nous à avoir une vie de piété. Ce que tu aimes, tu as dit, tu nous l'as rappelé ce matin. J'aime la piété. Autrement dit, tu aimes lorsque nous sommes là, Seigneur, dans ta présence, lorsque nous te cherchons de tout notre cœur, lorsque, Seigneur, nous finalement nous pratiquons tes commandements. Tu aimes ces choses. Et c'est ce à quoi tu nous appelles. Et Seigneur, Père, nous te le demandons. Remplis-nous du Saint-Esprit. Que notre flamme ne soit pas éteinte. Seigneur, si notre cœur est rempli, notre bouche sera remplie. Seigneur, nous serons bouillants pour toi. Nous serons pleins d'ardeur, de zèle pour toi. Aide-nous, Seigneur, Père, mon Dieu, à vivre toutes ces choses. Fais-nous grâce encore en ce matin. Si, Seigneur, il y avait quelqu'un de languissant, s'il y avait quelqu'un fatigué, s'il y avait quelqu'un, Seigneur, Père, qui était peut-être même découragé, Seigneur, revigore, renouvelle. Permets, Seigneur, que ce qui a été étiolé, ce qui a été éteint au plus profond de même soit ravivé, soit rallumé, comme notre sœur l'a dit au travers de sa prière. Seigneur, glorifie-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Fais grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Alléluia. J'aimerais qu'on reste dans ce temps de prière. Ce n'est pas pour faire un appel, mais j'aimerais qu'on, ensemble, on puisse prier pour notre sœur Léa. On va prier pour elle. On va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être, Richard, c'est possible que je te demande de pouvoir penser à notre sœur, que le Seigneur t'inspire. Alléluia pour notre sœur. Mais on n'imposera pas les mains. Le Seigneur, il est capable de toucher à distance voilà, notre sœur, la fille d'Esther. Voilà, sans forcément. On prie ensemble, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut tous se lever et puis accompagner la prière de notre frère Richard par rapport à notre sœur qui a quelques difficultés. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Le Seigneur, il sait. Mais on veut juste bien recommander notre sœur dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, il pose sa main. Alléluia. Vas-y, mon frère Richard. Alléluia, gloire à toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Père. Amen. Oui. Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oui, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Pose ta bonne main sur elle. Pose ta bonne main sur elle. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Oui, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On reste encore dans cet état de prière. Je vais prier encore pour les couples. Il y a des couples qui connaissent des moments difficiles. Et j'ai parlé tout à l'heure qu'il est important que nous puissions commencer aussi à vivre la piété, mais au sein de nos familles. Et je vais prier, alléluia, dans le nom de Jésus, afin que ces couples puissent retrouver le chemin de la réconciliation, puissent trouver l'aide, l'assistance du Saint-Esprit dont ils ont besoin, pour tout à nouveau connaître le pardon, pour retrouver la sérénité, la paix au sein, alléluia, de leur foyer. Seigneur, mon Dieu, tu vois ces familles en danger. Tu vois ces familles en difficulté. Et Seigneur, Père, mon Dieu, tu es celui qui vient à notre secours. Tu es celui qui combat pour nous. Tu es sur ton trône et tu règnes. Et tu vois, Seigneur, Père, le coup, mon Dieu, les familles, les couples de tes enfants. Tu vois ceux, celles qui sont en danger, ceux, celles qui sont en difficulté. Interviens, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que l'ennemi n'a ni part ni lot, Seigneur, Père, dans les vies, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs. Seigneur, au contraire, que tu donnes à mes frères, mes sœurs, de pouvoir, Seigneur, Père, chercher ta face, de pouvoir, Seigneur, Père, se recommander à toi, de pouvoir, Seigneur, crier à toi, de pouvoir, Seigneur, Père, mon Dieu, trouver le chemin du pardon, le chemin de la réconciliation avec leur conjoint au nom de Jésus-Christ, afin que les enfants ne soient point infectés, afin qu'il n'y ait point le tumulte, la zizanie, mon Dieu, la discorde, l'animosité dans les foyers au nom de Jésus-Christ, alors que l'ennemi recule au nom de Jésus. Seigneur, tu vois, Seigneur, Père, mon Dieu, tous les désastres qu'il peut faire. Tu vois, Seigneur, comment l'ennemi, Seigneur, Père, lui, ne prend jamais de congé. Mais, Seigneur, Père, nous savons que toi, tu es plus que vainqueur. Tu es le Dieu victorieux, tu es le Dieu des délivrances qui multiplie les délivrances au nom de Jésus-Christ. Interviens, glorifie-toi, Père, pour la seule gloire de ton nom. Donne l'intelligence, donne la sagesse. Donne, Seigneur, Père, à tes enfants, surtout ceux et celles qui ont des conjoints convertis. Donne-leur, Seigneur, Père, mon Dieu, les capacités de pouvoir réagir, Seigneur, et bien réagir dans les moments difficiles qu'ils peuvent traverser. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, mon Dieu, cette église locale restera debout. Cette église locale, Seigneur, Père, mon Dieu, veut se préparer jour après jour pour ton prochain retour, parce que tu es la porte, Seigneur. Tu es à la porte. Enlève tout esprit de crainte, enlève tout esprit de défaitisme. Seigneur, Père, mon Dieu, que nous puissions regarder à toi, parce que, Seigneur, Père, mon Dieu, tu nous assures la victoire. Au nom de Jésus-Christ, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Et amen, alléluia. Vous pouvez vous asseoir juste quelques instants, un bien d'annonce avant qu'on puisse se séparer. Merci Seigneur, alléluia, pour ce temps de un bien de louange, d'adoration que nous avons pu passer encore en sa présence. Vous avez constaté, il y a pas mal de personnes bien absentes, surtout parmi nos chantres et autres. Tout le monde a besoin d'un temps de repos. Alors on pense à tous les juétistes, les haoussiens, il y a un chassé-croisé là. Donc tous ceux qui partent en vacances, que Dieu vous garde, que Dieu vous renouvelle. Vous qui êtes peut-être derrière votre écran de télé, qui êtes en vacances, que Dieu vous bénisse et vous comble et vous renouvelle. C'est important. Alors les horaires, donc dimanche prochain, on se retrouve donc à 10h bien sûr pour vivre le culte physique dans la limite de 46 personnes. Donc inscription obligatoire sur le site internet de l'église et culte en direct via l'application Zoom. Et puis pour les mardis à 19h, donc mardi prochain à 19h, réunion de prière en visioconférence. Alors, n'hésitons pas à nous connecter. Alors, ce n'est pas évident pour certains. Certains m'ont dit, ils n'aiment pas trop se voir. Vous enlevez la caméra, ce n'est pas grave. Mais le tout que vous soyez là et surtout que vous participez dans la prière. Donc, à partir de 18h45, notre frère Éric Philippot donc, vous accueillera pour que vous puissiez faire partie de cette visioconférence. Vendredi, toujours pas de réunion. Et puis, le samedi... Donc, à la disposition des animateurs pour les ados et les jeunes adultes. L'inscription pour les prochains cultes par Internet, toujours à la même adresse. C'est ça qu'il faut privilégier. Si vous n'avez pas d'adresse, vous pouvez passer par une tierce personne pour vous inscrire. Et puis, exceptionnellement, par téléphone pour ceux qui n'ont pas de... Voilà, ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Il y a un numéro, 07 69 21 99 49. Le lundi de 10h à 17h pour vous inscrire. Là, c'est par voie téléphonique. Laissez-nous votre email afin d'être informé de toutes nos actualités. Donc ça, c'est un petit mot de la com. Et puis à la fin du culte, on arrive à la fin. Il faut sortir bien sûr par rangée en suivant les flèches. Je pense que Richard, tu vas peut coordonner tout ça. Lavez-vous les mains en sortant. Vous pouvez déposer vos offrandes dans le tronc à la sortie, donc le tronc couleur verte. Ne vous attardez pas sur le perron de l'église. Alors c'est vrai, moi le premier, on fait plaisir de nous retrouver, de parler. Moi je vous aime tous. Et c'est important de pouvoir parler. Mais il nous faut donc toujours laisser un bon témoignage, même par rapport le voisinage, et puis même devant Dieu, et puis se soumettre aux autorités. Donc toujours garder, respecter les gestes barrières, les distanciations physiques. Et le mieux, pas trop s'attarder sur le perron de l'église. Bien sûr, éviter de vous embrasser. Et puis, les inscrits pour le nettoyage des locaux sont priés de rester sur place. Il y en a quelques-uns qui ont été désignés. Donc, on va terminer par la prière. Et je vais demander à mon frère Eric. Eric et Sam, si tu peux, s'il te plaît, terminer par la prière, nous demander au Seigneur qu'il nous raccompagne les uns et les autres. Et puis après, je laisserai Richard mener un petit peu les choses.